Le besoin que j'avais de ma grand-mère était grandi par ma crainte de lui avoir causé une désillusion. Elle devait être découragée, sentir que si je ne supportais pas cette fatigue, c'était à désespérer qu'aucun voyage pût me faire du bien. Je me décidai à rentrer l'attendre. Le directeur vint lui-même pousser un bouton, et un personnage encore inconnu de moi, qu'on appelait Lift, et qui, au point le plus haut de l'hôtel, là où serait le lanternon d'une église normande, était installé comme un photographe derrière son vitrage ou comme un organiste dans sa chambre, se mit à descendre vers moi avec l'agilité d'un écureuil domestique, industrieux et captif. Puis en glissant de nouveau le long d'un pilier, il m'entraîna à sa suite vers le dôme de la nef commerciale. À chaque étage, des deux côtés de petits escaliers de communication, se dépliaient en éventail de sombres galeries, dans lesquelles, portant un traversin, passait une femme de chambre. J'appliquais à son visage, rendu indécis par le crépuscule, le masque de mes rêves les plus passionnés, mais lisais dans son regard tourné vers moi l'horreur de mon néant. Cependant, pour dissiper, au cours de l'interminable ascension, l'angoisse mortelle que j'éprouvais à traverser en silence le mystère de ce clair-obscur sans poésie, éclairé d'une seule rangée verticale de verrières que faisait l'unique water-closet de chaque étage, j'adressai la parole au jeune organiste, artisan de mon voyage et compagnon de ma captivité, lequel continuait à tirer les registres de son instrument et à pousser les tuyaux. Je m'excusai de tenir autant de place, de lui donner tellement de peine, et lui demandai si je ne le gênais pas dans l'exercice d'un art à l'endroit duquel, pour flatter le virtuose, je fis plus que manifester de la curiosité, je confessai ma prédilection. Mais il ne me répondit pas, soit étonnement de mes paroles, attention à son travail, souci de l'étiquette, dureté de son ouïe, respect du lieu, crainte du danger, paresse intellectuelle ou consigne du directeur. Il n'est peut-être rien qui donne plus l'impression de la réalité de ce qui nous est extérieur que le changement de la position, par rapport à nous, d'une personne même insignifiante, avant que nous l'ayons connue et après. J'étais le même homme qui avait pris à la fin de l'après-midi le petit chemin de fer de Balbec. Je portais en moi la même âme. Mais dans cette âme, à l'endroit où, à 6 heures, il y avait, avec l'impossibilité d'imaginer le directeur, le palace, son personnel, une attente vague et craintive du moment où j'arriverais, se trouvaient maintenant les boutons extirpés dans la figure du directeur cosmopolite, en réalité naturalisé monégasque, bien qu'il fût, comme il disait, parce qu'il employait toujours des expressions qu'il croyait distinguer sans s'apercevoir qu'elles étaient vicieuses, d'originalité roumaine. Son geste pour sonner le lift lui-même, toute une frise de personnages de guignol sortis de cette boîte de Pandore qu'était le grand hôtel, indéniable, inamovible et, comme tout ce qui est réalisé, stérilisant. Mais du moins ce changement dans lequel je n'étais pas intervenu me prouvait qu'il s'était passé quelque chose d'extérieur à moi, si dénué d'intérêt que cette chose fût en soi, et j'étais comme le voyageur qui, ayant eu le soleil devant lui en commençant une course, constate que les heures ont passé quand il le voit derrière lui. J'étais brisé par la fatigue, j'avais la fièvre. Je me serais bien couché, mais je n'avais rien de ce qu'il eût fallu pour cela. J'aurais voulu au moins m'étendre un instant sur le lit, mais à quoi bon, puisque je n'aurais pu y faire trouver de repos à cet ensemble de sensations qui est pour chacun de nous son corps conscient, sinon son corps matériel, et puisque les objets inconnus qui l'encerclaient, en le forçant à mettre ses perceptions sur le pied permanent d'une défensive vigilante, auraient maintenu mes regards, mon ouïe, tous mes sens, dans une position aussi réduite et incommode, même si j'avais allongé mes jambes, que celle du cardinal Labalu dans la cage où il ne pouvait ni se tenir debout ni s'asseoir. C'est notre attention qui met des objets dans une chambre, et l'habitude qui les en retire et nous y fait de la place. De la place, il n'y en avait pas pour moi dans ma chambre de Balbec, mienne de nom seulement. Elle était pleine de choses qui ne me connaissaient pas, me rendirent le coup d'œil méfiant que je leur jetais, et, sans tenir compte de mon existence, témoignèrent que je dérangeais le train-train de la leur. La pendule, alors qu'à la maison je n'entendais la mienne que quelques secondes par semaine, seulement quand je sortais d'une profonde méditation, continua sans s'interrompre un instant à tenir dans une langue inconnue des propos qui devaient être désobligeants pour moi, car les grands rideaux violets l'écoutaient sans répondre, mais dans une attitude analogue à celle des gens qui haussent les épaules pour montrer que la vue d'un tiers les irrite. Il donnait à cette chambre si haute un caractère quasi historique qui eût pu la rendre appropriée à l'assassinat du duc de Guise, et plus tard à une visite de touristes conduite par un guide de l'agence Cook, mais nullement à mon sommeil. J'étais tourmentée par la présence de petites bibliothèques à vitrines qui couraient le long des murs, mais surtout par une grande glace à pied, arrêtée en travers de la pièce, et avant le départ de laquelle je sentais qu'il n'y aurait pas pour moi de détente possible. Je levais à tout moment mes regards, que les objets de ma chambre de Paris ne gênaient pas plus que ne faisaient mes propres prunelles, car ils n'étaient plus que des annexes de mes organes, un agrandissement de moi-même, vers le plafond surélevé de ce belvédère situé au sommet de l'autel et que ma grand-mère avait choisi pour moi. Et, jusque dans cette région plus intime que celle où nous voyons et où nous entendons, dans cette région où nous éprouvons la qualité des odeurs, c'était presque à l'intérieur de mon moi que celle du vétiver venait pousser dans mes retranchements son offensive à laquelle j'opposais non sans fatigue la riposte inutile et incessante d'un reniflement alarmé. N'ayant plus d'univers, plus de chambre, plus de corps que menacé par les ennemis qui m'entouraient, qu'envahi jusque dans les os par la fièvre, j'étais seule. J'avais envie de mourir. Alors ma grand-mère entra, et à l'expansion de mon cœur refoulé s'ouvrirent aussitôt des espaces infinis. Elle portait une robe de chambre de percale qu'elle revêtait à la maison chaque fois que l'un de nous était malade, parce qu'elle s'y sentait plus à l'aise, disait-elle, attribuant toujours à ce qu'elle faisait des mobiles égoïstes, et qui était pour nous soigner, pour nous veiller, sa blouse de servante et de garde, son habit de religieuse. Mais tandis que les soins de celles-là, la bonté qu'elles ont, le mérite qu'on leur trouve et la reconnaissance qu'on leur doit, augmentent encore l'impression qu'on a d'être pour elles un autre, de se sentir seule, gardant pour soi la charge de ses pensées, de son propre désir de vivre, je savais, quand j'étais avec ma grand-mère, si grand chagrin qu'il y eût en moi, qu'il serait reçu dans une pitié plus vaste encore, que tout ce qui était mien, mes soucis, mon vouloir, serait en ma grand-mère étayé sur un désir de conservation et d'accroissement de ma propre vie autrement fort que celui que j'avais moi-même. Et mes pensées se prolongeaient en elle sans subir de déviation, parce qu'elle passait de mon esprit dans le sien sans changer de milieu, de personne. Et, comme quelqu'un qui veut nouer sa cravate devant une glace sans comprendre que le bout qu'il voit n'est pas placé par rapport à lui du côté où il dirige sa main, ou comme un chien qui poursuit à terre l'ombre dansante d'un insecte, trompé par l'apparence du corps comme on l'est dans ce monde où nous ne percevons pas directement les âmes, je me jetais dans les bras de ma grand-mère et je suspendis mes lèvres à sa figure comme si j'accédais ainsi à ce cœur immense qu'elle m'ouvrait. Quand j'avais ainsi ma bouche collée à ses joues, à son front, j'y puisais quelque chose de si bienfaisant, de si nourricier, que je gardais l'immobilité, le sérieux, la tranquille avidité d'un enfant qui tète. Je regardais ensuite sans me lasser son grand visage découpé comme un beau nuage ardent et calme, derrière lequel on sentait rayonner la tendresse. Et tout ce qui recevait encore, si faiblement que ce fût, un peu de ses sensations, tout ce qui pouvait être ainsi dit encore à elle, en était aussitôt si spiritualisé, si sanctifié, que de mes paumes je lissais ses beaux cheveux à peine gris avec autant de respect, de précaution et de douceur que si j'y avais caressé sa bonté. Elle trouvait un tel plaisir dans toute peine qui m'en épargnait une, et dans un moment d'immobilité et de calme pour mes membres fatigués, quelque chose de si délicieux que quand, ayant vu qu'elle voulait m'aider à me coucher et me déchausser, je fis le geste de l'en empêcher et de commencer à me déshabiller moi-même, elle arrêta d'un regard suppliant mes mains qui touchaient aux premiers boutons de ma veste et de mes bottines. « Oh, je t'en prie, » me dit-elle, « c'est une telle joie pour ta grand-mère. Et surtout, ne manque pas de frapper au mur si tu as besoin de quelque chose cette nuit. Mon lit est adossé au tien, la cloison est très mince. D'ici un moment, quand tu seras couché, fais-le pour voir si nous nous comprenons bien. » Et en effet, ce soir-là, je frappai trois coups, que, une semaine plus tard, quand je fus souffrant, je renouvelais pendant quelques jours tous les matins parce que ma grand-mère voulait me donner du lait de bonne heure. Alors, quand je croyais entendre qu'elle était réveillée, pour qu'elle n'attendît pas et pût tout de suite après se rendormir, je risquais trois petits coups, timidement, faiblement, distinctement malgré tout, car si je craignais d'interrompre son sommeil dans le cas où je me serais trompée et où elle eût dormi, je n'aurais pas voulu non plus qu'elle continue à dépier un appel qu'elle n'aurait pas distingué d'abord et que je n'oserais pas renouveler. Et à peine j'avais frappé mes coups que j'en entendais trois autres, d'une intonation différente cela, empreint d'une calme autorité, répété à deux reprises pour plus de clarté, et qui disait « Ne t'agite pas, j'ai entendu, dans quelques instants je serai là. » Et bientôt après ma grand-mère arrivait. Je lui disais que j'avais eu peur qu'elle ne m'entendît pas ou crût que c'était un voisin qui avait frappé. Elle riait. Confondre les coups de mon pauvre loup avec d'autres, mais entre mille sa grand-mère les reconnaîtrait. Crois-tu donc qu'il y en ait d'autres au monde qui soient aussi bêta, aussi fébrile, aussi partagée entre la crainte de me réveiller et de ne pas être compris? Mais quand même elle se contenterait d'un grattement, on reconnaîtrait tout de suite sa petite souris, surtout quand elle est aussi unique et à plaindre que la mienne. Je l'entendais déjà depuis un moment qui hésitait, qui se remuait dans le lit, qui faisait tous ses manèges. Elle entr'ouvrait les persiennes. À l'annexe en saillie de l'hôtel, le soleil était déjà installé sur les toits comme un couvreur matinal qui commence tôt son ouvrage et l'accomplit en silence pour ne pas réveiller la ville qui dort encore et de laquelle l'immobilité le fait paraître plus agile. Elle me disait l'heure, le temps qu'il ferait, que ce n'était pas la peine que j'allasse jusqu'à la fenêtre, qu'il y avait de la brume sur la mer, si la boulangerie était déjà ouverte, quelle était cette voiture qu'on entendait. Tout cet insignifiant lever de rideau, ce négligeable introïte du jour, auquel personne n'assiste, petit morceau de vie qui n'était qu'à nous deux, que j'évoquerais volontiers dans la journée devant Françoise ou des étrangers en parlant du brouillard à couper au couteau qu'il y avait eu le matin à 6 heures, avec l'ostentation non d'un savoir acquis, mais d'une marque d'affection reçue par moi seule. 12 instants matinales qui s'ouvraient comme une symphonie par le dialogue rythmé de mes trois coups auxquels la cloison, pénétrée de tendresse et de joie, devenue harmonieuse, immatérielle, chantant comme les anges, répondait par trois autres coups, ardemment attendus, 2 fois répétés, et où elle savait transporter l'âme de ma grand-mère tout entière et la promesse de sa venue avec une allégresse d'annonciation et une fidélité musicale. Mais cette première nuit d'arrivée, quand ma grand-mère m'eut quittée, je recommençais à souffrir comme j'avais déjà souffert à Paris au moment de quitter la maison. Peut-être cet effroi que j'avais, qu'ont tant d'autres, de coucher dans une chambre inconnue, peut-être cet effroi n'est-il que la forme la plus humble, obscure, organique, presque inconsciente de ce grand refus désespéré qu'opposent les choses qui constituent le meilleur de notre vie présente, à ce que nous revêtions mentalement de notre acceptation la formule d'un avenir où elle ne figure pas. Refus qui était au fond de l'horreur que m'avait fait si souvent éprouver la pensée que mes parents mourraient un jour, que les nécessités de la vie pourraient m'obliger à vivre loin de Gilberte, ou simplement à me fixer définitivement dans un pays où je ne verrais plus jamais mes amis. Refus qui était encore au fond de la difficulté que j'avais à penser à ma propre mort, ou à une survie comme celle que Bergotte promettait aux hommes dans ses livres, dans laquelle je ne pourrais emporter mes souvenirs, mes défauts, mon caractère, qui ne se résignait pas à l'idée de ne plus être, et ne voulait pour moi ni du néant, ni d'une éternité où il ne serait plus. Quand Swann m'avait dit à Paris un jour que j'étais particulièrement souffrant, « Vous devriez partir pour ces délicieuses îles de l'Océanie. Vous verrez que vous n'en reviendrez plus. » J'aurais voulu lui répondre « Mais alors, je ne verrai plus votre fille. Je vivrai au milieu de choses et de gens qu'elle n'a jamais vues. » Et pourtant, ma raison me disait « Qu'est-ce que cela peut faire puisque tu n'en seras pas affligée ? Quand Monsieur Swann te dit que tu ne reviendras pas, il entend par là que tu ne voudras pas revenir. Et puisque tu ne le voudras pas, c'est que là-bas, tu seras heureux. » Car ma raison savait que l'habitude qui allait assumer maintenant l'entreprise de me faire aimer ce logis inconnu, de changer la place de la glace, la nuance des rideaux, d'arrêter la pendule, se charge aussi bien de nous rendre chers les compagnons qui nous avaient déplu d'abord, de donner une autre forme au visage, de rendre sympathique le son d'une voix, de modifier l'inclination des cœurs. Certes, ces amitiés nouvelles pour des lieux et des gens ont pour trame l'oubli des anciennes. Mais justement, ma raison pensait que je pouvais envisager sans terreur la perspective d'une vie où je serais à jamais séparée d'êtres dont je perdrais le souvenir. Et c'est comme une consolation qu'elle offrait à mon cœur, une promesse d'oubli qui ne faisait au contraire qu'affoler son désespoir. Ce n'est pas que notre cœur ne doive éprouver, lui aussi, quand la séparation sera consommée, les effets analgésiques de l'habitude. Mais jusque-là, il continuera de souffrir. Et la crainte d'un avenir où nous serons enlevés la vue et l'entretien de ceux que nous aimons et d'où nous tirons aujourd'hui notre plus chère joie, cette crainte, loin de se dissiper, s'accroît si, à la douleur d'une telle privation, nous pensons que s'ajoutera ce qui pour nous semble actuellement plus cruel encore, ne pas la ressentir comme une douleur, y rester indifférent. Car alors notre moi serait changé. Ce ne serait plus seulement le charme de nos parents, de notre maîtresse, de nos amis qui ne seraient plus autour de nous. Notre affection pour eux aurait été si parfaitement arrachée de notre cœur, dont elle est aujourd'hui une notable part, que nous pourrions nous plaire à cette vie séparée d'eux dont la pensée nous fait horreur aujourd'hui. Ce serait donc une vraie mort de nous-mêmes, mort suivie, il est vrai, de résurrection, mais en un moi différent, et jusqu'à l'amour duquel ne peuvent s'élever les parties de l'ancien moi, condamnées à mourir. Ce sont elles, même les plus chétives, comme les obscurs attachements aux dimensions, à l'atmosphère d'une chambre, qui s'effarent et refusent, en des rébellions où il faut voir un mode secret, partielle, tangible et vraie de la résistance à la mort, de la longue résistance désespérée et quotidienne à la mort fragmentaire et successive, telle qu'elle s'insère dans toute la durée de notre vie, détachant de nous à chaque moment des lambeaux de nous-mêmes, sur la mortification desquels des cellules nouvelles multiplieront. Et pour une nature nerveuse comme était la mienne, c'est-à-dire chez qui les intermédiaires, les nerfs, remplissent mal leurs fonctions, n'arrêtent pas dans sa route vers la conscience, mais y laissent au contraire parvenir, distinctes, épuisantes, innombrables et douloureuses, la plainte des plus humbles éléments du moi qui vont disparaître. L'anxieuse alarme que j'éprouvais sous ce plafond inconnu et trop haut n'était que la protestation d'une amitié qui survivait en moi pour un plafond familier et bas. Sans doute cette amitié disparaîtrait, une autre ayant pris sa place, alors la mort, puis une nouvelle vie aurait, sous le nom d'habitude, accompli leur œuvre double. Mais jusqu'à son anéantissement, chaque soir elle souffrirait, et ce premier soir-là, surtout, mise en présence d'un avenir déjà réalisé où il n'y avait plus de place pour elle, elle se révoltait, elle me torturait du cri de ses lamentations chaque fois que mes regards, ne pouvant se détourner de ce qui les blessait, essayaient de se poser au plafond inaccessible. Mais le lendemain matin, après qu'un domestique fût venu m'éveiller et m'apporter de l'eau chaude, et pendant que je faisais ma toilette et essayais vainement de trouver les affaires dont j'avais besoin, dans ma malle d'où je ne tirais pêle-mêle que celles qui ne pouvaient me servir à rien, quelle joie, pensant déjà au plaisir du déjeuner et de la promenade, de voir dans la fenêtre et dans toutes les vitrines des bibliothèques, comme dans les hublots d'une cabine de navire, la mer nue, sans ombrage, et pourtant à l'ombre sur une moitié de son étendue que délimitait une ligne mince et mobile, et de suivre des yeux les flots qui s'élançaient l'un après l'autre comme des sauteurs sur un tremplin. À tout moment, tenant à la main la serviette raide et empesée où était écrit le nom de l'hôtel et avec laquelle je faisais d'inutiles efforts pour me sécher, je retournais près de la fenêtre jeter encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux et sur les sommets neigeux de ces vagues en pierre d'émeraude çà et là polie et translucide, lesquelles, avec une placide violence et un froncement léonin, laissaient s'accomplir et dévaler l'écroulement de leurs pentes auxquelles le soleil ajoutait un sourire sans visage. Fenêtre à laquelle je devais ensuite me mettre chaque matin comme au carreau d'une diligence dans laquelle on a dormi, pour voir si pendant la nuit s'est rapprochée ou éloignée une chaîne désirée. Ici ces collines de la mer qui, avant de revenir vers nous en dansant, peuvent reculer si loin que souvent ce n'était qu'après une longue plaine sablonneuse que j'apercevais à une grande distance leurs premières ondulations, dans un lointain transparent, vaporeuse et bleuâtre, comme ces glaciers qu'on voit au fond des tableaux des primitifs toscans. D'autres fois, c'était tout près de moi que le soleil riait sur ces flots d'un vert aussi tendre que celui que conservent aux prairies alpestres, dans les montagnes où le soleil s'étale, çà et là comme un géant qui en descendrait gaiement, par bonds inégaux, les pentes, moins l'humidité du sol que la liquide mobilité de la lumière. Au reste, dans cette brèche que la plage et les flots pratiquent au milieu du reste du monde pour y faire passer, pour y accumuler la lumière, c'est elle surtout, selon la direction d'où elle vient et que suit notre œil, c'est elle qui déplace et situe les vallonnements de la mer. La diversité de l'éclairage ne modifie pas moins l'orientation d'un lieu, ne dresse pas moins devant nous de nouveaux buts qu'il nous donne le désir d'atteindre, que ne ferait un trajet longuement et effectivement parcouru en voyage. Quand le matin, le soleil venait de derrière l'autel, découvrant devant moi les grèves illuminées jusqu'au premier contrefort de la mer, il semblait m'en montrer un autre versant et m'engager à poursuivre sur la route tournante de ses rayons un voyage immobile et varié à travers les plus beaux sites du paysage accidenté des heures. Et dès ce premier matin, le soleil me désignait au loin d'un doigt souriant ces cimes bleues de la mer qui n'ont de nom sur aucune carte géographique, jusqu'à ce qu'étourdie de sa sublime promenade à la surface retentissante et chaotique de leurs crêtes et de leurs avalanches, Il vint se mettre à l'abri du vent dans ma chambre, se prélassant sur le lit défait et égrenant ses richesses sur le lavabo mouillé, dans la malle ouverte où, par sa splendeur même et son luxe déplacé, il ajoutait encore à l'impression du désordre. Hélas, le vent de mer, une heure plus tard dans la grande salle à manger, tandis que nous déjeunions et que, de la gourde de cuir d'un citron, nous répandions quelques gouttes d'or sur deux sols qui bientôt laissèrent dans nos assiettes le panache de leurs arêtes, frisées comme une plume et sonores comme une cithare, il parut cruel à ma grand-mère de n'en pas sentir le souffle vivifiant à cause du châssis transparent mais clos, qui, comme une vitrine, nous séparait de la plage tout en nous la laissant entièrement voir, et dans lequel le ciel entrait si complètement que son azur avait l'air d'être la couleur des fenêtres et ses nuages blancs un défaut du verre. Me persuadant que j'étais assis sur le môle ou au fond du boudoir dont parle Baudelaire, je me demandais si son soleil rayonnant sur la mer, ce n'était pas, bien différent du rayon du soir, simple et superficiel comme un trait doré et tremblant, celui qui en ce moment brûlait la mer comme une topaze, la faisait fermenter, devenir blonde et laiteuse comme de la bière, écumante comme du lait, tandis que par moments s'y promenaient çà et là de grandes ombres bleues que quelque dieu semblait s'amuser à déplacer en bougeant un miroir dans le ciel. Malheureusement, ce n'était pas seulement par son aspect que différait de la salle de Combray donnant sur les maisons d'en face cette salle à manger de Balbec, nue, emplie de soleil, vert comme l'eau d'une piscine, et à quelques mètres de laquelle la marée pleine et le grand jour élevaient, comme devant la cité céleste, un rempart indestructible et mobile d'émeraude et d'or. À Combray, comme nous étions connus de tout le monde, je ne me souciais de personne. Dans la vie de bain de mer, on ne connaît pas ses voisins. Je n'étais pas encore assez âgée et j'étais restée trop sensible pour avoir renoncé au désir de plaire aux êtres et de les posséder. Je n'avais pas l'indifférence plus noble qu'aurait éprouvée un homme du monde à l'égard des personnes qui déjeunaient dans la salle à manger, ni des jeunes gens et des jeunes filles passant sur la digue, avec lesquels je souffrais de penser que je ne pourrais pas faire d'excursion, moins pourtant que si ma grand-mère, dédaigneuse des formes mondaines et ne s'occupant que de ma santé, leur avait adressé la demande humiliante pour moi de m'agréer comme compagnon de promenade. Soit qu'ils rentrassent vers quelque chalet inconnu, soit qu'ils en sortissent pour se rendre raquette en main à un terrain de tennis, ou montassent sur des chevaux dont les sabots me piétinaient le cœur, je les regardais avec une curiosité passionnée dans cet éclairage aveuglant de la plage où les proportions sociales sont changées. Je suivais tous leurs mouvements à travers la transparence de cette grande baie vitrée qui laissait passer tant de lumière. Mais elle interceptait le vent, et c'était un défaut à l'avis de ma grand-mère qui, ne pouvant supporter l'idée que je perdisse le bénéfice d'une heure d'air, ouvrit subrepticement un carreau et fit envoler du même coup avec les menus, les journaux, voiles et casquettes de toutes les personnes qui étaient en train de déjeuner. Elle-même, soutenue par le souffle céleste, restait calme et souriante comme sainte Blandine, au milieu des invectives qui, augmentant mon impression d'isolement et de tristesse, réunissaient contre nous les touristes méprisants, dépeignés et furieux.